Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous sommes sur la Seine. Nous ne sommes pas sur scène, mais nous sommes sur la Seine, dans un magnifique endroit qui s'appelle Fluctuart, un endroit tout neuf qui a ouvert le 4 juillet dernier. Nous allons parler d'art urbain. Nous allons rencontrer Cyril Gouillette, qui est commissaire d'une magnifique exposition que je viens de visiter. Tout est encore dans les... pas dans les cartons, mais voilà, tout est en train d'être installé là. Ça va ouvrir début novembre, on va en reparler. Et puis, nous commençons avec Nicolas Laugereau-Lasserre, qui est l'un des cofondateurs et qui est directeur artistique de ce superbe lieu. Nicolas, bonjour.
Bonjour, bienvenue à tous.
Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà la genèse de ce projet, comment il est né, comment c'est arrivé à ce beau lieu dans lequel nous sommes avec plein de vitres partout. On est sur la Seine et on est au ras de la Seine, hein, ça donne une impression assez magique.
Absolument. Ben, ce projet, il est né d'abord de l'idée d'un de mes associés qui s'appelle Géraud Boursin, qui avait ce rêve, ce fantasme de créer un lieu dédié à l'art sur l'eau. Il avait ça dans les tuyaux.
Et puis, à l'art tout court à ce moment-là, pas à l'art urbain forcément.
Oui, ou à l'art urbain. Enfin, oui. il avait cette réflexion. Et puis, ça s'est déclenché par l'appel à projet, par l'opportunité de l'appel à projet de réinventer Paris, réinventer la Seine, qui a été lancée par la mairie de Paris et Aropa, qui est le port autonome, qui gère tous ces quais ici à Paris. Et donc, quand cet appel à projet est sorti, il y a maintenant 4 ans, nous étions en 2015, il est venu me voir et m'a dit voilà, « Qu'est-ce que tu penses de cette idée si on faisait un lieu consacré à ce mouvement, au street art, au graffiti, à l'art urbain, sur l'eau ?» Et donc, il m'a littéralement embarqué, c'est le cas de dire, dans l'aventure. Et nous avons candidaté, on a remporté un premier tour. Donc, il y avait une quarantaine de projets très divers. Et puis, on était 4 finalistes. Et puis, on a gagné le deuxième tour. Donc, alléluia, il y a maintenant 2 ans de ça. À ce moment-là, les choses sérieuses ont commencé. On a lancé la fabrication.
Ah oui, parce qu'il y a une vidéo que j'encourage nos auditeurs à aller regarder sur le net, hein, sur votre page YouTube.
Futuart.fr et voilà, tous les sites
possibles.
Chaîne
YouTube et votre page Facebook. Et c'est quand même impressionnant de voir ce... Parce que moi, je pensais que c'était un lieu, au départ, qui existait déjà, que vous aviez investi, alors qu'en fait, tout a été construit.
Absolument.
Et il a fallu amener ce... Est-ce qu'on peut appeler ça un bateau? Pas vraiment.
C'est une barge. Hein, il n'y a pas de moteur. Donc, c'est une barge de 1000 m² avec une capacité de 500 personnes. Hein, c'est quand même assez conséquent. Oui. C'est 43 mètres de long par 9 mètres de large sur 3 niveaux.
Voyez. Et au pied du pont des Invalides.
Et c'est ça qui est magique. C'est qu'on est devant le Grand Palais, au pied du pont des Invalides. Donc, on est dans le 7e, hein, rive gauche. Et pour les gens qui se baladent un peu par là ou qui connaissent, tout près de, par exemple, du Rosa Bonheur, du Flo, du Faust, ces établissements qui ne sont pas très loin. Donc, c'est un emplacement magique. Et donc, on a lancé un véritable chantier naval à Dieppe. On a fait construire littéralement ce bateau.
Et alors, à partir de là, pour revenir un petit peu en amont, lorsque vous avez eu cette idée et cette envie de créer ce lieu, comment ça s'est passé par rapport à imaginer quelque chose sur l'eau? Parce que c'est pas... Enfin, il faut répondre à tout un tas de
Bien
contraintes
sûr.
Qui ne sont pas celles de juste investir un lieu où les murs sont déjà en place.
Bien sûr.
La construction, est-ce que vous-même avez participé à exprimer ce que vous vouliez? Puisque là, il y a 3 niveaux, on va en reparler, avec des expositions temporaires, une librairie, le rooftop avec de la restauration. C'est vous-même qui avez...
Eh bien, non, tout ça a été possible parce qu'on a eu la chance de s'associer avec vraiment les meilleurs architectes de la Seine, qui s'appellent, l'agence s'appelle Seine Design, donc Gérard Ronzati, Mathieu Ronzati. Et donc, ce sont eux qui ont construit, par exemple, Ducasse sur l'eau, le Hof, l'hôtel flottant, ou encore le Rosa Bonheur, on en parlait. Ce sont donc des architectes qui ont fabriqué une 20aine d'établissements flottants, hein, à Paris.
Ils ont
et qui sont extraordinaires. Et donc, on a vécu cette aventure folle avec eux, puisque semaine après semaine, on a vraiment construit le bâtiment avec son architecture qu'ils ont brillamment inventée. Et puis, toutes ces déambulations, toute cette scénographie, vous voyez, qui a été conçue par Seine Design. Voilà. Donc, on a eu la chance d'être avec vraiment les meilleurs.
Donc, à partir de là, l'idée, qu'est-ce que vous avez décidé de proposer dans ce lieu?
Alors, l'idée, c'était vraiment d'avoir enfin, si je puis dire, pour moi qui suis passionné depuis 20 ans par cette scène urbaine, par ces artistes incroyables, d'avoir un lieu permanent dédié à cette scène, à l'art urbain, à ces artistes issus du street art et du graffiti. Un lieu consacré.
Et, ce qui n'existait pas à Paris.
Non, ce qui n'existe pas. Il y a des galeries, il y a des ventes aux enchères ponctuellement, mais ce sont des lieux marchands. Il n'y avait pas de lieu, de musée, d'institution consacré. Donc c'était ça l'idée. Donc l'idée, ça a été de ménager toute cette cale dans laquelle nous nous trouvons à l'instant. C'est 350 mètres carrés avec 3,50 mètres d'hauteur sous plafond, avec ces vues superbes sur la Seine, sur le pont Alexandre III d'un côté, le pont de l'Alma de l'autre, et puis ces vues folles sur également le Grand Palais. Et donc de consacrer cette cale à des installations, à des interventions in situ, on y tenait beaucoup. Des artistes donc qui vont venir travailler ici en résidence, qui viennent passer des jours et des jours, créer des œuvres pour le public, pour le plus grand nombre, et tout ça absolument gratuitement. C'était ça la promesse, c'était un lieu d'accès entièrement gratuit et également avec des visites guidées gratuites grâce à un partenariat avec l'ICAR, qui est cette école d'ingénierie culturelle, marché de l'art, et donc des jeunes gens qui viennent aussi venir faire de la médiation gratuitement tout au long de l'année pour le plus grand nombre. Donc une vraie envie d'accessibilité à l'art, d'accessibilité à la culture.
Et tout cela non subventionné?
Non, il n'y a pas de subvention. On a gagné une concession. On paye un loyer pour être là, pour le quai. Mais donc on a remporté une concession de 20 ans. On est là pour un petit bout de temps. Mais pas d'argent public. On en est fiers. Vous savez, on est dans un moment aujourd'hui de déficit public important, aussi bien pour l'État que pour la mairie de Paris. Et donc, avoir eu l'audace de financer un lieu par des financements privés, mais en même temps de répondre à un intérêt général qui était cette accessibilité gratuite, voilà, on est vraiment fiers de ça. Et donc, on a fait le pari de vivre sur les recettes du bar, de la petite restauration, pour moitié, puis pour moitié de ce qu'on appelle l'événementiel, donc des entreprises qui viennent ici faire des événements, des séminaires, des rencontres, etc. Donc voilà, on fait le pari d'avoir un modèle économique viable de façon privée, mais d'avoir une volonté d'intérêt général et d'accessibilité gratuite au plus grand nombre. Et j'y crois, c'est possible.
Donc il faut préciser aussi qu'on a parlé du rooftop, la terrasse, là où évidemment l'été c'est magnifique hein, pour les soirées, pour prendre un verre ou grignoter quelque chose. Mais il faut préciser que l'hiver ça fonctionne aussi parce qu'il y a aussi un endroit qui est fermé, c'est très bien chauffé, nous y sommes. On a l'impression d'être dans un immeuble en fait, hein. C'est
bien
très
sûr,
confortable.
Absolument.
Voilà,
ah,
c'est
oui.
Très...
Et donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'en dehors des expositions temporaires dont nous avons parlé, il y a également une collection permanente avec une vingtaine des plus grands artistes de la scène urbaine.
Oui, on a des grosses pointures.
Voilà, donc c'est fascinant pour les gens de découvrir des œuvres originales de Banksy, de Shepard Fairey, le fameux Shepard Fairey Obé, d'Imbider, hein, dont on admire les quelques 1500 interventions dans Paris avec ses mosaïques, ou encore des historiques du graffiti comme Ramalzi, Quick, Futura 2000, puis des artistes plus contemporains comme Pantonio, comme Vils, comme Speedy Graffito, comme Dran, comme Mark Jenkins, etc., 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 JR que j'oubliais, Roa le Belge. Voilà, vraiment, on aura dans ce pont principal un panorama des artistes les plus importants de cette scène urbaine. Et on peut, comme vous le disiez, l'hiver également, c'est un bar d'hiver aussi à cet endroit, prendre un verre. Donc le lieu est un lieu de vie. C'est ça,
oui,
qu'on a voulu créer.
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a ces grosses pointures qui peuvent donner envie au plus grand nombre de venir visiter le lieu. Et à côté de ça, on a aussi tous ces jeunes artistes qui peuvent être en résidence ou dans les expositions temporaires, qui eux n'ont pas la même visibilité, la même notoriété, mais qui sont tout aussi intéressants.
Oui, c'était l'idée vraiment de mixer à la fois dans les expositions collectives des artistes émergents, mais aussi une idée dont on est particulièrement fier avec... notre commissaire d'exposition Cyril Gouillette, c'est une véritable mixité homme-femme. Vous savez que c'est un vrai sujet et un vrai sujet dans l'art, puisque dans n'importe quelle des galeries, il y a à peu près en général 9 hommes pour une femme. Et là, on avait cette velléité d'équilibrer vraiment. Donc on a un line-up sur un peu plus de 20 artistes sélectionnés, quasiment une moitié d'artistes femmes. On en est aussi très fiers.
Oui, y compris dans l'exposition qui va ouvrir bientôt là autour de...
C'est de celle-là dont je parle.
D'accord.
C'est de l'exposition Veni, Vidi, Vinci, hein, où 20 artistes de la scène urbaine internationale, 20 artistes du monde entier qui viennent détourner, qui viennent jouer avec les œuvres de Vinci.
Et
donc c'est comme ça qu'on retrouvera des œuvres iconiques, bien
avec
sûr.
Avec Cyril Gouillet juste après, parce qu'il y a un travail derrière ça, un travail non seulement un vrai travail artistique dont on n'a pas forcément conscience quand on parle d'art urbain, et puis et un travail intellectuel de réflexion aussi qui est vraiment impressionnant.
Ça, intellectuel, vous avez dit le mot avec Cyril Gouillet, il est absolument extraordinaire.
Je voudrais juste que vous nous, puisque je vous ai là devant le micro, parce qu'en fait, il y a quand même des précisions à donner pour la plupart des gens, et je m'inclus dedans, qui s'intéressent vaguement comme ça, parce qu'on voit passer sur le net, sur des pages Facebook, des choses d'art urbain, ou qu'on les a sous les yeux en ville. Qu'est-ce qu'on appelle de l'art urbain? Parce que, est-ce qu'il y a maintenant une définition officielle? Qu'est-ce que ça inclut? Parce qu'on entend parler de street artiste, de graphe, de tag, d'art urbain. Est-ce que vous pourriez nous donner rapidement
en quelques
un tout
mots,
petit cours?
Bien sûr. Donc, pour info, je viens d'éditer avec trois autres amis journalistes le premier « Que sais-je ?» sur l'art urbain, donc qui va être l'ouvrage absolument parfait, assez didactique pour pouvoir justement avoir ces codes. Mais je vais résumer l'ouvrage en une minute, alors si
oui,
je vais y arriver,
s'il vous plaît.
Je vais essayer. Mais en tout cas, donc je vais tâcher de résumer en quelques secondes un peu ce mouvement, si tant est qu'on puisse l'appeler un mouvement. En fait, je pars d'un ADN commun entre les différents courants. L'ADN commun des différents courants du graffiti, du street art, c'est, j'ai envie de vous dire, la rue, l'intervention dans la rue, l'accessibilité pour tous, la gratuité forcément hein, de ces interventions, cet accès au plus grand nombre, mais aussi la mondialisation. C'est un courant artistique qui s'est propagé dans le monde entier, hein,
sur
dans
tous les
plusieurs
continents,
dizaines
oui.
de pays, ouais. dans plusieurs continents. Et donc, voilà, s'il devait y avoir un ADN commun, il est là. Hein. Et puis ce côté militant, évidemment, on a en face de nous des artistes qui ont des choses à dire, une vision, des choses à défendre. Et c'est ça qui est enthousiasmant. Ensuite, je le disais, différentes racines, différents courants. Donc évidemment, l'art urbain, finalement, l'intervention de l'homme sur les murs, c'est pas nouveau, hein, de l'homme qui laisse ses traces. On part du paléolithique, hein, on part des grottes de Lascaux. Et puis, on voit au fil de l'histoire de l'humanité, ces interventions finalement se perpétuer constamment jusqu'à ce XXe siècle avec, je pense à Brassailles, le fameux photographe qui va des années 30 aux années 60 bâtir un recueil qui s'appelle Graffiti. Mais tiens, qu'est-ce que c'est que ce graffiti avant la naissance du graffiti tel qu'on l'entend aujourd'hui dans les années 70 à New York? Eh bien, le graffiti qu'explore Brassailles, ce sont des soldats qui partent à la guerre, qui gravent sur un mur lettres chères ou un petit mot pour la postérité. Ce sont des prisonniers dans leurs cellules qui vont venir graver des choses. C'est l'amoureux transi qui va sur l'écorce d'un arbre dessiner un cœur avec deux initiales. Vous voyez, donc ce graffiti, c'est finalement cette trace que l'homme laisse sur son passage. Et ça, ça a toujours existé. Donc j'ai envie de vous dire, la première origine, elle est là. Puis, de façon plus formelle et récente, le graffiti new-yorkais qui naît dans ce berceau du New York, de ce Brooklyn, de ce Bronx des années 70, très parallèle avec la naissance du hip-hop, hein, qui va naître en même temps. Donc là, on a la naissance d'un graffiti qui est plus du lettrage. Ce sont donc toujours des très jeunes gens de 14-15 ans qui commencent et qui posent ce qu'on appelle leur blase, leur surnom, sur les murs, façon de s'approprier la ville, de s'approprier le territoire et d'exister. J'écris, donc j'existe. Ouais. Et en parallèle de ça, il faut comprendre que dès les années 80, et en France en particulier, qui en est un des berceaux, un certain nombre d'artistes, souvent formés académiquement, donc qui ont fait des écoles d'art, vont venir poser leur œuvre sur les murs. Et c'est parti. Et donc vous avez vraiment la naissance du graffiti et la naissance du street art avec des pionniers, des historiques en France comme Mystique, Ménager, Jeff Aerosol, Speedy Graffito, Mosco, Nemo, Black Laura et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Et là, ça y est, les deux courants sont nés. Et donc ce qu'il y a de fascinant, c'est que ce graffiti vandale, je mets ça entre guillemets, c'est pas un gros mot, en tout cas, cette essence-là de ce graffiti, de ces jeunes graffeurs qui posent leur blase, va s'entremêler avec ces street artistes, ces artistes qui vont venir poser souvent de façon plus figurative, cette fois pas en lettrage, mais leurs œuvres, leurs motifs, leurs univers. Tout ça s'entremêle Et ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'un certain nombre aussi de graffeurs, dans une démarche vandale au départ, vont aussi transcender ce graffiti et devenir véritablement des artistes, assumer cette pratique artistique et aussi développer en parallèle un travail d'atelier. Et je finis avec la clé probablement du mouvement, c'est à la fois le travail de rue, qui est l'essence des choses, hein, pour tous, gratuit, militant, on l'a dit tout à l'heure, et en parallèle, pour beaucoup d'entre eux, un travail d'atelier. C'est-à-dire que ces artistes vont aussi créer des œuvres sur support, sur toile et sur différents supports de bois ou autres. Et là, on a véritablement voilà, les deux facettes de ce mouvement.
Et vous, donc Nicolas Logerot-Lasserre, comment vous êtes-vous intéressé à l'art urbain? Est-ce que c'est arrivé progressivement ou brutalement dans votre vie?
Moi, donc, je ne suis pas du tout issu de ce milieu de l'art. Je suis originaire du sud de la France. Je suis né à Nice, j'ai vécu à Antibes, Marseille et... C'est en arrivant à Paris à l'âge de 20 ans que j'ai pris littéralement une claque. On était en 96-97 et le hasard me mène dans mon petit studio à la Butte aux Cailles, dans ce quartier du 13e arrondissement de Paris, très historiquement investi par le street art. Et donc je découvre vraiment l'art et ses artistes sur les murs de mon quartier à la Butte aux Cailles, rue Martin Bernard, rue Buau, rue des 5 Diamants, rue de la Butte aux Cailles. Et c'est vraiment la rue qui me donne ce premier accès. Et c'est ça que j'ai eu envie de transmettre plus tard, que j'ai eu de cesse d'essayer de transmettre, c'est que ma conviction, c'est que ce mouvement est une espèce de machine d'accessibilité à l'art. C'est un outil absolument formidable pour faire rentrer les gens dans l'art. Il ne s'agit pas après de les laisser là, on peut les amener beaucoup plus loin et remonter le temps jusqu'à l'art contemporain, l'art moderne et jusqu'au Louvre. Et ça, Cyril Gouillette nous en parlera. Mais c'est cette passerelle qui est fascinante. Donc l'art urbain, c'est un outil de démocratisation absolument extraordinaire pour le plus grand nombre. Ce n'est pas l'art des 1%, c'est vraiment l'art des 100%.
Et vous avez ouvert le 4 juillet. Quel est le public qui vient ici et quel bilan vous pouvez faire déjà? Parce que je crois qu'il y a une super fréquentation.
Oui, c'est ça. Et merci à tous les gens qui sont venus. C'est plus de 150 000 visiteurs en près de 4 mois. 120 000 visiteurs pour l'exposition de Soon, cet artiste américain incroyable qui a ouvert le lieu.
Magnifique.
Un mois de résidence ici et qui a laissé une exposition vraiment fantastique, très humaniste, très généreuse.
Grosse pointure aussi.
Absolument, vraiment 20 ans de carrière,
une
monographie.
Absolument, récemment, oui.
Absolument. Donc non, vraiment, le lieu a suscité un vrai engouement et on en est extrêmement heureux. Et vous parliez de public, ben, c'est à la fois des enfants et qu'on alimente aussi par des ateliers enfants toutes les semaines avec le fameux musée en herbe qui vient faire ici toutes les semaines, tous les dimanches, des ateliers pour les enfants. Et aussi beaucoup de scolaires qui viennent, beaucoup de centres culturels de la mairie de Paris qui viennent ici toutes les semaines gratuitement. Et puis derrière ça, un public très large, évidemment les aficionados, mais aussi du très grand public à l'occasion des vacances. On a des gens qui viennent de régions, de toute la France,
oui,
et des gens du monde entier.
Oui, parce que là où vous êtes situé, en fait, les quais sont ces fameux quais...
La rive gauche.
Voilà, où les voitures avant circulaient et qui a été donc rendu aux piétons.
Voilà.
Donc c'est
et
un
ce
lieu
sont
de
2
promenade.
Millions de personnes, hein, pour vous parler très concrètement, qui passent sur ces quais devant nous chaque année. Donc là, il y a un flux absolument fantastique de gens pour venir découvrir gratuitement ce projet, ce lieu et aussi nos expositions.
Quelles sont les réactions qui vous ont le plus marqué depuis l'ouverture?
Ce sont des réactions de gens parfois néophytes et qui étaient surpris de voir l'intensité de ces artistes urbains issus de la rue. Souvent dans la rue, on a peu de temps, on doit faire les œuvres rapidement. Ici, au cœur du lieu, ce sont de véritables installations, de véritables résidences. Et donc la stupéfaction des gens de voir le grand talent de ces artistes, voilà, qui n'ont rien à envier aux autres. Et peut-être sur ces paroles, c'est là que je laisserai la parole à Cyril Gouillette, parce que justement tout le propos de Cyril Gouillette et de son ouvrage Sous le street art, le Louvre, ça a été de tracer cette passerelle entre ces artistes urbains, ces jeunes artistes et ces artistes majeurs. Et le propos, c'est de dire, ce sont les mêmes quelques siècles après, et ça c'est fabuleux, voilà.
Très bien, ça me semble vraiment bien pour enchaîner maintenant. Merci beaucoup.
Merci
et
infiniment,
surtout,
merci
à
tous.
Bonne continuation.
Et bienvenue, on est Pont des Invalides, hein, dans le 7e Fluctuart. Voilà, les gens sont bienvenus.
Donc on enchaîne avec Cyril Gouillette. Je vais vous laisser vous présenter.
Oui, bonjour. Alors moi, je suis historien d'art et Nicolas Laugereau-Lasserre m'a fait l'honneur de m'accorder sa confiance pour être l'auteur de cette exposition, à la fois pour en choisir, je dirais, la thématique et puis aussi en choisir les artistes, le line-up.
Vous travaillez avec le Louvre, je crois.
Voilà, je travaille par ailleurs au Musée du Louvre.
C'est intéressant, justement. Hein, on va en reparler.
Tout à fait.
Vous êtes juste à l'intersection de deux mondes.
Exactement.
Et vous
exactement.
Les réunissez.
Voilà, j'essaye.
Alors, une exposition exceptionnelle va ouvrir ici dans quelques jours.
Oui, alors elle ouvre, l'inauguration est en grande pompe le 6 novembre, mais elle ouvre au public le 8 novembre.
Donc c'est en lien évidemment avec l'anniversaire des 500 ans de la disparition de Léonard de Vinci.
Tout à fait.
Parce que les hommages se sont succédés en France et en Europe pendant toute cette année. C'est en, comment on dit, en parallèle ou en off de l'exposition majeure qui lui est consacrée par le Louvre.
Oui, je dirais que c'est, même indépendamment de tout ça, l'idée de terminer cette année de commémoration de Vinci avec un art hyper contemporain, si je puis dire, oui. Qui est l'art urbain. Et l'idée, c'était de montrer comment, finalement, les artistes urbains ont aussi reçu l'héritage de Léonard de Vinci et comment ils s'ancrent à leur tour dans une histoire de l'art en revisitant certaines de leurs œuvres et certaines des démarches de Léonard de Vinci.
L'exposition s'appelle « Veni, Vidi, Vinci ». L'art urbain face au génie, donc 20 artistes, 20 ou plus de 20 artistes.
Un peu plus de 20, puisqu'il y a des binômes.
Internationaux qui détournent les œuvres majeures de Léonard de Vinci. Donc dit comme ça, on pourrait croire que c'est un concept un peu gadget pour s'inscrire dans l'ère du temps. Et en fait, grâce à cette visite guidée que vous venez de me faire, ça permet de se rendre compte, en fait, cette exposition, à quel point il y a un travail de fond derrière tout ça. C'est pas du tout, c'est pas juste s'accaparer une œuvre connue et faire du name dropping avec un nom qui, voilà.
Exactement.
C'est beaucoup plus intéressant que ça. Racontez-nous.
Ouais. Alors, l'exposition, on l'a divisée en différentes parties. Une première partie qui, justement, va nous montrer un peu tout ce processus créatif, aussi bien chez Vinci que chez les street artists. C'est-à-dire qu'on part de cette universalité, de l'intérêt de Vinci, cette grande curiosité et de ce travail préparatoire, je dirais de l'atelier, hein, de ses manuscrits, de ses codex, etc., pour montrer combien les street artists que nous avons choisis, en l'occurrence, sont aussi, leurs œuvres sont aussi le fruit d'un travail très élaboré. Et ce processus de création, on va le montrer sous différentes façons, aussi bien par exemple avec une artiste qui est l'artiste Madame, qui fait des grands collages dans la rue, mais dont tout le monde ne sait pas que ces collages ont à l'origine d'abord une œuvre, une petite œuvre dans une boîte, dans une vitrine, qui est une installation en fait, avec des collages, des mécanismes
en trois dimensions,
des choses qu'on peut manipuler en fait. Oui. Et à chacune de ces œuvres va correspondre, je dirais, d'en prendre la substantifique moelle, et va correspondre un grand collage qui sera unique et mis dans la rue. Donc là, pour la première fois, on va pouvoir confronter une œuvre, une boîte vitrine, un petit retable qu'elle a fait, et un collage qui sera derrière cette boîte.
Donc on voit l'envers du décor, en fait.
Exactement.
On voit en amont de la création de ce qu'on peut avoir sous les yeux dans la rue.
Voilà, exactement. On voit vraiment ce processus créatif. On va le voir aussi chez cet artiste Swoon, qui faisait l'objet d'une précédente exposition ici, puisqu'elle a aussi pour habitude de graver donc sur des plaques de cuivre. Donc on va avoir une plaque de cuivre et l'estampe qui est imprimée à partir de cette plaque de cuivre, là aussi. C'est assez rare d'avoir les deux objets l'un à côté de l'autre.
Vous m'avez montré ça tout à l'heure, et pour avoir vu un petit peu ses œuvres, c'est vrai que j'imaginais pas du tout qu'il y avait un tel travail derrière. On imagine que voilà, l'artiste est devant une surface et que...
Non, très souvent, les artistes en particulier qu'on a choisis sont des artistes qui ont eu une formation entre guillemets académique, hein, qui ont été dans des écoles d'art, de dessin, d'art appliqué, ça dépend, et qui se sont vraiment... et c'est pourquoi aussi ils ont atteint une carrière, je dirais, aussi internationale, c'est que ce sont des gens qui, réfléchissent énormément à leur art, à ce qu'ils veulent montrer. Il y a un concept vraiment intellectuel un peu derrière tout ça. Et puis un processus artistique, une grande technicité. Ce sont souvent des artistes très virtuoses dans leur domaine. Et donc ça permettra d'aborder la question du collage, donc on l'avait avec Madame, la question effectivement de la gravure, du pochoir, de l'agrandissement avec des mises au carreau. On a un artiste italien fantastique qui s'appelle Andrea Ravo Mattoni, qui lui travaille uniquement au spray, mais avec le spray, il va reproduire et agrandir des chefs-d'œuvre dans la rue. C'est-à-dire qu'il peut vous faire un Caravage sous une pile d'autoroute. Il peut vous faire sur un pignon de maison, justement, une œuvre de Vinci, la Madeleine Benoît, qu'il a faite sur un hôpital à Rome. Il va faire très prochainement une œuvre de Luca Giordano au Salon Fine Arts, en hommage à l'exposition qui se tient au Petit Palais. Donc vous voyez, il est vraiment tout terrain. Il a fait pour l'anniversaire de Vinci à Amboise une série de 5 énormes détails d'un tableau qui est conservé à Amboise, qui montre la mort de Léonard de Vinci. Donc voilà, il fait sortir dans la rue les chefs-d'œuvre. C'est ça. Il récupère ses classiques pour le mettre dans la rue et donner envie et ouvrir la curiosité de tout un chacun des passants pour dire il y a des choses, il y a des trésors merveilleux dans les musées. Donc lui, il travaille beaucoup avec la mise au carreau qu'on va pouvoir aussi appréhender parce qu'il va nous laisser apparent. Alors la mise au carreau, c'est-à-dire un quadrillage qui permet donc, je dirais, sur une photo, hein, sur une œuvre, un premier dessin préparatoire, de quadriller l'œuvre pour prendre des repères et à partir de ces carreaux, bien, tout simplement de les augmenter ou de les répéter, ça dépend si on veut changer de format ou pas, sur un mur. En l'occurrence, il va les agrandir peut-être x5 ou x6. Et puis, par rapport à ce repère de quadrillage, il va pouvoir faire son dessin préparatoire, puis ensuite peindre au spray. Donc là où Léonard de Vinci peignait à l'huile et avec son pinceau, aujourd'hui, Andrea Ravomattoni et tant d'autres travaillent avec la bombe aérosol. Donc voilà, ce processus créatif, il va nous permettre de balayer la question du portrait, la question des planches anatomiques, la question des chevaux. On a une artiste extraordinaire qui s'appelle Face47, en français, mais qui est sud-africaine et qui, elle, s'intéresse énormément aux équidés, à la question du rapport, de la domination de l'homme et du cheval. Donc évidemment, toutes ces batailles de Léonard de Vinci, que ce soit la bataille d'Anghiari, que ce soit ses projets sur la statue équestre pour Ludovico Sforza à Milan, tout ça, dont on a des dessins, elle s'en est imprégnée. Et ça rentrait complètement en résonance avec son œuvre.
Oui, parce qu'en fait, tous ces artistes ont vraiment mené des réflexions. C'est pas faire une reproduction de la Joconde avec un petit quelque chose d'amusant à regarder dessus. Non, il y a une vraie réflexion derrière
tout
chacun.
À fait.
Si vous voulez bien nous parler de, par exemple, Speedy Graffito ou de,
oui,
de ce qui a été fait par rapport à l'homme de Vitruve aussi, parce qu'il y a des détournements par rapport à la Joconde, à l'homme de Vitruve.
Voilà. Donc, évidemment, cette première partie sur le processus créatif qui parle beaucoup de dessin, elle est suivie par une autre qui était inévitable et souhaitable sur la question du chef-d'œuvre iconique, de la peinture de chevalet finalement, après le dessin, et notamment la Joconde. Donc la Joconde, ça peut sembler un peu un exercice, un passage obligé, un exercice de style pour les artistes qui vont on voit bien dans toute l'histoire du XXe siècle, qui vont la revisiter, et puis d'une façon plus ou moins intéressante d'ailleurs. Donc l'idée, c'était pas de prendre des artistes qui vont se contenter de mettre un nez rouge, voilà, ou quelque chose comme ça. Mais c'est plutôt des artistes qui, eux, vont réinterroger différentes problématiques de la peinture de Léonard de Vinci, comme pourrait être le sfumato, comme pourrait être le sourire de la Joconde, comme pourrait être même son processus de monstration, comment elle est montrée dans le musée, comment elle est perçue, donc la question de la réception, et finalement la question du statut du chef-d'œuvre. Hein, qu'est-ce que c'est que de faire un chef-d'œuvre, quel est le statut de la peinture, et dans un musée, pourquoi on devient une icône comme ça? Il y a
par
plusieurs
exemple,
réponses
ce
qui sont faites.
Avec les petites gélules.
Alors voilà, oui. Speedy Graffito, lui, va interroger cette question de l'addiction aujourd'hui à notre monde de l'image. Donc par rapport à cette réception de l'image et par rapport à ce que c'est qu'un chef-d'œuvre ou une icône, il part du principe qu'aujourd'hui, toutes les images, on les reçoit de la même façon, hein, sur un téléphone portable, sur un iPhone, sur
un
écran d'ordinateur, quoi. Et donc tout ça a la même valeur. On ne sait plus quelle taille ça a, on ne sait plus quelle matérialité ça a.
Il n'y a pas de relief.
Non. Et puis, quand on retravaille cette image, on la pixelise de façon à finalement arriver à la décomposer à l'infini. Donc lui, il part de ce principe carrément pour refaire une Joconde pixelisée, et qui tient même, l'ironie du sort, je dirais, enfin, il va jusqu'au bout, qui tient la pomme d'Apple, le logo d'Apple, et pour dénoncer finalement notre addiction aux GAFAM, hein, les fameux GAFAM, Google, Apple, etc. Et dire au fond, ben, aujourd'hui, tout passe vraiment d'abord par l'image avant même de voir la Joconde, la vraie, l'originale.
Oui.
Mais il pousse aussi le vice, si je puis dire, à faire ces pixels comme des petites gélules pharmaceutiques, c'est-à-dire comme si on les absorbait. Et donc finalement, on est dans cette addiction totale. Mais il retourne aussi la situation en disant cette addiction, elle est intéressante. Donc le tableau s'appelle l'addiction de Mona Lisa, donc, qui est la nôtre finalement. Mm-hmm. Mais lui, il dit, faut pas jeter, j'allais dire, le bébé avec l'eau du bain, faut pas jeter tout ça. Ce qui est intéressant dans tout ça, parce que c'est notre société, hein, qui est comme ça, eh bien, c'est d'y voir un formidable réservoir réservoir d'images. Et lui raconte que quand il était jeune, parce que c'est quelqu'un qui maintenant est un peu un pionnier hein, de l'art urbain, c'est une génération...
Il est dans les aînés.
Dans les aînés, exactement. Eh bien, lui raconte qu'autrefois, quand il était jeune, il fallait qu'il aille à la bibliothèque pour aller chercher des images, ne serait-ce que de Mickey, des images pop, de Blanche-Neige, de tout ce qu'on veut. Et là, aujourd'hui, il trouve tout sur Internet. C'est comme un énorme marché, ce qui lui permet de retravailler beaucoup plus facilement, de faire des associations, etc. Et sans hiérarchie. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au bout du compte, il est en train de nous dire qu'il n'y a peut-être pas forcément une hiérarchie en art.
Et là, celle qu'on nous a imposée.
Voilà. Et qu'on peut se sentir libre d'aller chercher et de faire des croisements, des mariages, etc. Pour notre plus grand bonheur. Dans ce même esprit, il y a Osmo qui travaille lui aussi. Donc l'œuvre de Speedy, elle est numérique et imprimée sur un plexiglas. Celle de Osmo, elle est peinte. Et lui, c'est un grand virtuose aussi de la peinture. Donc elle est peinte à l'huile. Alors lui, il peint au spray ou à l'huile, indifféremment. Il est très fort. Et il va nous faire une sorte de copie de la Joconde, mais dont il va pixeliser complètement le visage. Et là, tout d'un coup, cette pixelisation qui nous renvoie au téléchargement hein, et qui nous renvoie au statut de l'image, elle nous renvoie aussi, non sans un certain humour, à la question du sfumato. Le sfumato qui est donc cette façon de fondre les contours qui tenait vraiment au cœur de l'œuvre de Vinci, qui cherchait à dire, voilà, pour rendre réel, pour rendre vivant, il faut qu'on arrive à fondre la forme qu'on doit représenter dans une atmosphère. Et donc les contours dans la nature n'existent pas. Les contours, c'est quand on dessine, c'est ceux qu'on va nous-mêmes mettre en place pour cerner une forme, mais ils n'existent pas dans la nature. Donc lui, il a passé son temps à vouloir justement superposer des couches les plus fines possibles pour rendre cette immatérialité. Et donc Osmo l'interroge avec cette pixelisation un peu forcée. Et ça nous ramène à un autre type d'artiste, un duo d'artistes qui s'appelle les Mias Brothers, qui eux sont carrément dans le flou le plus total. Quand on voit leur œuvre, on se dit « tiens, c'est une photo floue ». Et si on s'approche, on s'aperçoit que c'est une peinture au spray, hein, là encore à la bombe aérosol, donc là aussi une très grande technicité, et qui interroge cette notion de perception. Parce qu'eux veulent aller chercher l'âme de la peinture, ils veulent aller chercher vraiment l'essence même, le côté éthéré, presque l'antimatière, et nous interroger sur ce qu'on voit finalement. Mais en même temps, cette Joconde, d'aussi loin qu'on la voit bien, alors qu'elle est floue, on la reconnaît immédiatement. Donc finalement, ça interroge aussi qu'est-ce qui fait qu'on reconnaisse si bien cette silhouette. Et donc tout ça dans ce flou qui renvoie là aussi à la fois au sfumato dont on vient de parler, mais aussi à la perception de cette œuvre. Quand on rentre pour la première fois dans la salle de la Joconde au musée du Louvre, on se dit, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit une forme, une silhouette au loin. On reconnaît, bon, de toute façon, il y a le monde autour, mais elle n'est pas perceptible dans toute sa netteté. Donc ça nous renvoie aussi à cette image. Tout comme Speedy Graffito a une image qui est d'autant plus perceptible si on la voit à travers le téléphone portable.
Oui, vous m'avez montré l'expérience tout à l'heure à travers de l'écran, effectivement, où l'image du coup
apparaît. Se recompose.
Oui, c'est impressionnant.
Et là aussi, ça nous renvoie à la façon dont on voit aujourd'hui la vraie Mona Lisa au musée du Louvre, qu'on ne voit en général qu'à travers le prisme de l'écran du téléphone portable. Donc ça nous renvoie des enjeux
parce
de société
à des
modalités de visite.
Que pour la prendre en photo. Et j'aimerais bien aussi quelques mots sur une œuvre que je trouvais très intéressante. Il y a les différentes mises en perspective qui se répondent en écho avec le sac et le logo.
Ah, alors, il y a plusieurs. Alors, donc, oui. Nick Walker, on peut en parler après. Bien sûr, alors, ça, c'est un des chefs-d'œuvre aussi de l'exposition qui est le chef-d'œuvre, on va dire, la Joconde mise en place par Zeus. Qui est très intéressante parce que c'est une série de mises en abîme. C'est-à-dire qu'en fait, il va recréer le processus de monstration, là aussi, de la Joconde, sachant que son œuvre, ce sont trois choses, en quelque sorte. C'est la copie conforme du tableau qui a été faite par un copiste, mais une copie, donc, de la Joconde, de la même taille.
Ce qui, quelque part, est impressionnant.
Ce qui, quelque part, est illégal, mais on est toujours dans ce côté très borderline, parce qu'on ne peut pas copier une œuvre dans les vraies dimensions de l'original.
Voilà, officiellement, pour
pas qu'il y ait de problème de faux. Bon. Cette œuvre, elle est précédée d'une petite sculpture qui n'est autre que le moulage en bronze de la copie d'un sac Louis Vuitton. Et le tout est mis dans une boîte, dans une vitrine qui fait vraiment partie de l'œuvre, hein, ça fait partie de son processus de démonstration, en velours rouge, ce qui renvoie aux installations muséographiques, surtout du 19e siècle, sur le fond rouge, etc. Comme c'était au Louvre pour la Joconde il y a encore 100 ans. Alors on vient de refaire sa salle, donc c'est tout à fait différent. Et tout ça derrière une vitrine. Donc l'artiste tenait à ce que tout soit vraiment dans cette installation-là, parce que ça nous renvoie vraiment à un processus de visite à travers une vitrine et à ce qu'est la Joconde aujourd'hui. Mmh. Alors le sac à main, à côté tout à fait incongru, on se dit, mais enfin, pourquoi un sac à main, une dame de la Renaissance,
pourquoi
etc.
Pourquoi une marque, c'est un sponsor
et
cette,
ou... Voilà, ça renvoie à la question de sponsoring, mécénat,
les produits placés etc. maintenant un peu partout dans les voilà. films, dans les séries.
Et elle a un logo, cette marque. Et cette marque, au premier abord, on pourrait se dire, tiens, on dirait le logo de Louis Vuitton. Mais si on regarde mieux, c'est un logo qui ressemble à celui de Louis Vuitton, mais c'est LDV, Leonardo da Vinci. C'est un monogramme, en fait, au départ, que l'artiste a créé dans les années 1470-80.
L'artiste Léonard.
Léonard a créé ce monogramme, comme Dürer, qu'on connaît très bien, le fameux AD de Dürer. Il avait créé ce monogramme comme ça se faisait couramment, je dirais. Et dans les années, à la fin du 19e siècle, Louis Vuitton, plus exactement son fils Georges, a repris ce monogramme, s'en est inspiré pour faire le monogramme de la marque Vuitton. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi il a fait un monogramme à cette époque-là, Georges Vuitton, c'était pour lutter contre les contrefaçons et pour bien authentifier, marquer de son empreinte, de sa marque, les objets, ses malcabines.
C'est un logo qui a bien été copié dans le monde.
Voilà. Donc voilà un logo qui est copié, mais qui en fait a pris son origine de Léonard de Vinci. Ça ne veut pas dire qu'il est une copie, mais qu'il est une inspiration. Donc finalement, qui copie qui commence, etc. Et elle va se mettre avec facétie sur un sac à main qui n'est autre qu'une contrefaçon d'un sac à main Vuitton, mais magnifié parce qu'en bronze doré, devant la Joconde qui est une copie de Léonard, etc. Donc c'est une sorte d'oxymore aussi, cette œuvre, parce qu'en fait, original, copie, etc. Et c'est aussi l'idée que peut-être post-mortem, Léonard de Vinci se réapproprie son œuvre. Là où on pourrait penser qu'une marque de luxe vient mettre un peu trop son empreinte sur un chef-d'œuvre ou bien sur un patrimoine qui est universel, se dire au fond quel est le rapport des marques et des objets, enfin donc des objets de luxe, je dirais, et des chefs-d'œuvre de l'humanité, donc l'histoire de l'art et l'histoire finalement de la mode, comment tout ça peut un petit peu se rencontrer, ou du moins le marketing plus que l'histoire de la mode. Voilà.
Donc là, on a des œuvres qui sont en fait dans cette partie de la barge de Fluchtfahrt, oui, où nous sommes au niveau de quasiment de l'eau.
Oui.
Et donc, de l'autre côté, il y a des, voilà, y a une petite, un petit passage entre les deux.
Voilà,
il y
a un cheminement entre deux salles.
Et là, dans la partie où nous sommes pour réaliser l'interview, vous m'avez expliqué tout à l'heure qu'en fait, il va y avoir deux grandes œuvres de chaque côté.
Voilà, qui se répondent. Et ici, on va aborder, alors encore une fois, une question qui est très intéressante et qui est commune à l'histoire de la Renaissance, je dirais, et au street art, qui est la question du mur, la question de peindre voilà, une paroi.
En fait, vous avez décliné l'exposition autour de quatre thèmes, hein, qui sont des thèmes de l'œuvre de Léonard de Vinci.
Oui, en quelque sorte, c'est-à-dire ce processus créatif dont on a parlé, donc plutôt lié au dessin, la question du chef-d'œuvre iconique est plutôt liée à la peinture de Chevalet. La question quand même qui traverse la Renaissance, qui est la place de l'homme dans l'univers, la place de l'homme dans la création artistique.
Avec l'homme de Vitruve.
Avec le fameux homme de Vitruve.
Là, on est quand même avec toute l'actualité autour de l'Anthropocène et de tout ça, on est dans des sujets d'actualité, on
Exactement.
Peut dire.
Avec deux artistes principalement qui interrogent la place de l'homme dans la cité, dans la ville, carrément sur la signalétique même des panneaux.
Oui, avec Klett.
La signalisation avec
Klett. Que tout le monde connaît sur le net.
Exactement. Et puis, à nouveau avec Zeus, qui fait un triptyque magnifique de trois hommes de Vitruve qui, eux, sont déclinés, je dirais, qui sont non plus au centre de la Terre, mais au centre du cosmos, puisqu'ils ils se dégagent sur une voie lactée.
L'homme de Vitruve, pour nos amis internautes qui ne voient pas forcément à quoi ça correspond, alors que tout le monde le connaît, mais on ne sait pas forcément que ça s'appelle comme ça.
Non,
c'est
tout
ce
à fait.
Dessin de Léonard de Vinci avec cet homme aux proportions dites parfaite, je crois.
Voilà. Alors, c'est un homme qui est, j'allais dire, augmenté en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on a son tronc et sa tête, voilà, commune, et puis il y a deux positions pour ses jambes et deux positions pour ses bras, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il pourrait avoir quatre jambes et quatre bras. Et donc, l'un et l'autre viennent se superposer. Ce qui est intéressant, c'est que ça leur permet, donc, soit dans une position, j'allais dire, christique, on va dire, donc l'homme a les bras complètement perpendiculaires à son torse, ou bien il l'élève un peu plus et du coup, il les a en V, pour dire simple. Et pour les jambes, jambes, c'est pareil. Soit ils sont dans l'axe du torse, soit ils sont légèrement écartés. Et en fonction de cet écartement, ben, soit on tient dans un carré. Et quand on est dans un carré, c'est le nombril qui est au centre. Si on est dans un cercle, c'est quand les bras et les jambes sont écartés, c'est cette fois le sexe qui sert de centre au cercle. Donc le cercle et le carré sont un petit peu décalés, ce que va d'ailleurs refondre Zeus dans son œuvre. Bon. Donc ça, ce qui est intéressant en plus de ça, c'est que ça nous parle.
D'ailleurs, excusez-moi de couper, qui lui aussi a été récupéré par la publicité.
Ben Manpower, donc, notamment.
Voilà. Hein,
donc, quand on dit l'homme de Manpower, tout le monde a compris.
Tout le monde voit de quoi il s'agit.
Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que, finalement, cet homme de Vitruve nous parle aussi de cinétique. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique, je dirais, qui fait que quand on regarde très rapidement, on passe d'un bras à l'autre, etc., on a l'impression qu'il agite les bras comme s'il volait, et que pareil, les jambes ont l'air de bouger. Donc, c'est intéressant d'avoir ce petit balayage visuel. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils interrogent aussi dans leur peinture. Et puis, alors, dernière pièce et dernière partie de cette exposition qui va être un peu aussi... on va croissant, hein, parce qu'on sera passé pour l'homme de Vitruve, on va être passé à travers un petit couloir un peu plus intime comme ça, avec une surprise au détour, parce qu'on va, j'en dis pas plus, mais on découvrira le Salvator Mundi qui serait passé comme ça d'une façon incidemment d'un yacht peut-être à une péniche.
Que tout le monde cherche d'après ce que vous
m'avez
raconté.
Voilà, donc nous on l'a trouvé. Et puis ici dans cette pièce on va avoir un face-à-face entre deux monstres aussi, hein, du street art, hein, de l'art urbain. Alors sachant que j'en ai oublié plein dans le
oui,
début des autres
pas,
pièces.
On ne peut pas non plus, comme bon. On est dans l'audio, c'est vrai que malheureusement on ne peut pas tous les décrire. Mais
c'est vrai qu'il y en a d'autres,
hein,
Bonka qui est formidable, Nick Walker qu'on a juste évoqué tout à l'heure, d'autres artistes peut-être moins connus mais que j'aimerais faire découvrir au grand public, hein, Blub, Pang, enfin tous ces noms qui sont très qui peuvent sembler très exotiques mais qui sont aussi
Blub, c'est cette Joconde avec le masque de
avec
plongée.
Le masque de plongée et les bulles qui donnent son nom à l'artiste.
C'est une réflexion autour de cette Joconde que tout le monde regarde et qui, elle, se trouve derrière un masque de plongée
à
regarder tout le monde.
À nouveau, c'est elle qui nous dévisage. Avec ce masque, elle nous dévisage et avec cette distanciation qu'est l'eau, elle nous regarde comme si c'était nous, finalement, qui étions un peu les bêtes curieuses qu'elle venait voir dans un univers alors aquatique, pour différentes raisons aussi, peut-être parce que ça nous parle de la montée des eaux, sachant que la question environnementale traverse beaucoup le courant de l'art urbain. Donc ça en fait partie. Alors si on
c'est souvent un art engagé d'ailleurs.
Ah, c'est un art toujours engagé, mais de façon plus ou moins ludique, facétieuse, ironique.
Oui. Et selon les cultures, selon les pays, l'engagement se traduit différemment, mais
exactement.
Est très présent.
Exactement. Ouais. Ça peut passer aussi par le slogan qui vient s'ajouter. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais Madame, elle met toujours de l'écriture dans ses œuvres. Voilà, il y en a plusieurs qui peuvent être justement à la fois à mi-chemin entre l'écrit et le visuel, enfin, je dirais le peint, le figuratif. Alors, cette pièce pour terminer, il s'agit donc de cette question du mur avec cette problématique qui existe déjà dans la Renaissance de faire des grands décors de murs peints. Hein, on en a évidemment dans les églises, dans les chapelles, dans les palais, on pense...
Dans les châteaux.
Voilà, on pense par exemple à la chambre des époux de Mantegna. Là, il y a une grande exposition à Mantoue sur Jules Romain. Voilà, donc qui a fait qui a décoré des salles entières, y compris des salles où, comprenant le plafond, les quatre murs, etc., pour nous mettre dans une situation, je dirais, un peu déroutante, où les parois, en fait, disparaissent, sont escamotables. On a l'impression qu'on est dans une grotte, etc. Ici, le principe, de toute façon, à la Renaissance, c'est d'ouvrir une fenêtre sur le monde et finalement de faire en sorte que la cloison devant laquelle on est disparaisse. Voilà, et on prolonge l'espace intérieur jusqu'à l'extérieur par un paysage, par des scènes, etc., des personnages grandeur nature. C'est l'œuvre à laquelle s'est attaché Logan Hicks, qui est un artiste new-yorkais et qui est un grand spécialiste, expert, virtuose du pochoir, puisque lui a mis en place des pochoirs qu'il superpose jusqu'à 6 couches, si je puis dire, et qui va lui permettre de monter en gamme ses couleurs, des plus foncées jusqu'aux plus claires, et de les fondre. Dans une approche qui est même presque impressionniste. Et donc très souvent, il se livre à des grandes vues architecturales dans la rue, etc. Et parfois à l'évocation de tableaux impressionnistes, etc. Ici, la commande qui lui a été passée, puisque ça fait partie des artistes à qui on a passé une commande, ne serait-ce que parce qu'on voulait que ce soit justement du in situ, donc une œuvre peinte sur place, l'idée c'est d'avoir ces pochoirs qui vont évoquer une scène. Une scène que, bien évidemment, il va revisiter et qui, pour lui...
Alors là, une scène, on est encore dans...
Alors
c'est ni la scène.
Scène
sur laquelle nous sommes en ce moment, au moment de l'interview, ni la scène du spectacle, c'est la scène C-E-N-E.
C-E-N-E. Donc la scène, pour vous restituer le message originel, c'est donc une scène donc religieuse, et c'est le dernier repas du Christ, le repas qu'il va prendre avant d'être exécuté, mis en croix, etc. Donc c'est ce dernier soir-là où il réunit tous ses disciples pour justement, alors c'est très important dans la religion chrétienne, puisque c'est le moment fondateur de l'Eucharistie, c'est-à-dire le moment où on va communier et consommer son corps et son sang sous la forme de pain et de vin. Voilà, donc une sorte une métaphore, là, qui, plus qu'une métaphore d'ailleurs, puisque c'est vraiment le côté consubstantiel, voilà, de, sans rentrer dans la théologie, mais qui est très très important dans la religion chrétienne. Et c'est aussi le moment où il annonce que l'un d'entre eux va le trahir. Donc dans la scène de Vinci, qui est aujourd'hui donc intransportable, puisqu'elle est elle-même sur un mur, peint, c'est une fresque, dans le réfectoire de Sainte-Marie-des-Grâces, ou Santa Maria delle Grazie, à Milan, et c'était un réfectoire de moines qui, là aussi, était une sorte de mise en abîme de, du repas quotidien des moines avec cette, cette transposition, on va dire, sacrée. Bon, ce que va faire Logan X, c'est que lui, il va l'actualiser. Donc, à la fois, il reprend le travail de fresquiste, mais en étant pochoiriste. Ça, c'est sa technique à lui. Et puis, il va revisiter l'œuvre, puisqu'il va reprendre des personnages de son entourage et retravailler cette histoire, enfin, cette idée de sa propre culture à lui, qui est le dîner de Thanksgiving, qui est ce fameux dîner de famille dans lequel...
Lui, il est américain.
Il est américain.
Précisons-le.
Voilà, tout à fait. Et donc, il va reparler donc, ce qui est de, le propre de sa culture et ces fameux dîners familiaux où souvent, en fait, tout le monde, ça ne se termine pas toujours très bien. Donc, les gens vont finalement finir par s'invectiver ou régler des comptes, etc., etc. Parce que c'est un peu le moment de réunion familiale. On pourrait penser au dîner de Noël chez nous, etc. Bon, donc un peu dans un esprit d'ailleurs, comme le dernier film de Dolan, où voilà, on est sur des bandes de copains ou autres, et puis est-ce que ça dérape ou pas. Bon, donc c'est une scène très agitée. Pourquoi elle est très agitée? Parce que lui, c'est ce qu'il a vu dans la scène de Vinci, cette agitation, puisqu'il y a le Christ qui tout d'un coup dit, voilà, l'un d'entre vous va me trahir. Et on voit par groupe de trois, il y a quatre groupes de trois qui sont dans toutes les expressions possibles, imaginales, qui vont de la stupeur à l'effroi, à l'incompréhension, à la colère parfois, et au dédouanement, etc., la suspicion. Bon. Et donc, ils sont tous... Évidemment, le but de Vinci, c'était de montrer toutes ces expressions. Donc, lui a repris des gens de son entourage et il a voulu aussi les mettre dans une situation absolument pas mimétique par rapport à l'œuvre originale, mais qui l'évoque complètement. Donc voilà, il faudra venir la voir parce qu'il y a tout un rapport aussi à la question de la profondeur, puisque normalement quand on fait une fresque comme ça sur un mur et qu'on prolonge l'espace, on cherche à créer l'illusion de la profondeur, l'illusion du trompe-l'œil, comme si la scène se prolongeait, et lui va jouer beaucoup avec ça.
Mais lui, voilà. Du coup, ce ne sont pas du tout les personnages, il a réintégré sa culture dedans.
Exactement, exactement, parce que il a beau connaître le contexte religieux, il me dit, moi, ce qui me parle aujourd'hui, ça n'est plus ce contexte religieux-là, et c'est plus non plus ce qui va parler aujourd'hui aux trois quarts de la population, pour ne pas dire les 9/10, mais en revanche, quelle est la force de ce tableau, qu'est-ce qu'il nous raconte et qu'est-ce qu'il continue de nous dire aujourd'hui. C'est pour ça aussi que cet élément de la scène du dernier repas du Christ, il est fondateur dans la religion chrétienne, mais ce n'est pas pour rien que c'est autour d'une table. Parce qu'au fond, dans notre société occidentale, en tout cas, le rapport à la table, à la consommation, à la communion, autour de, voilà, tous ensemble, autour d'un repas, c'est quelque chose de fondamental. Donc ça, il le réinterroge à travers Thanksgiving. Et alors,
Thanksgiving, normalement, c'est la dinde et les petits fruits rouges, là, les érelles.
Les érelles, ce genre de choses, oui.
Et là, ce n'est pas vraiment ça, si j'ai bien compris.
Non. Mais c'est le prétexte de se réunir pour un repas.
D'accord.
C'est un peu de Noël, c'est pas vraiment Thanksgiving non plus, c'est quelque chose qui l'a traversé à ce moment-là. En fait, la vraie question c'est, on est réunis tous autour d'un repas, et qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il se passe toujours quelque chose dans un repas de famille finalement.
Oui.
Voilà. Et en face, on a Okuda, qui dans son univers ultra coloré, ultra pop, etc., nous fait aussi une scène en respectant, pour le coup, d'une façon beaucoup plus la scansion des personnages de Vinci, avec bon, toujours le Christ au milieu, mais les groupes de trois personnages de part et d'autre, sauf que les personnages sont devenus des êtres hybrides avec des becs comme des oiseaux, etc., tous féminins. Et puis alors, parmi eux se glisse Titi, le Titi de Titi et Gros Minet, Ralph de la série Simpson, donc qui nous actualise complètement la scène, qui à la fois la désacralise, la profane dans tous les sens du terme, et puis l'actualise. Bon. Et ce qu'ils sont en train de consommer sur la table, c'est des frites McDonald's, un hamburger, la Campbell Soup chère à Andy Warhol, parce qu'évidemment, il y a un héritage complètement revendiqué aussi d'Andy Warhol, et puis la tête de Trump. Et là, on se dit, oulala, que se passe-t-il en fait?
Ça va être indigeste.
Ce à quoi sont en train de communier tous ces gens, en fait, c'est la nourriture industrielle. D'aucuns diraient la malbouffe, la nourriture industrielle américaine qui domine le monde avec ce côté, et c'est pour ça que la tête de Trump est là aussi, ce côté finalement prédateur d'une certaine façon du capitalisme qui envahit, impose et unifie, uniformise jusque dans nos habitudes alimentaires. Et c'est intéressant parce que là on parlait tout d'un coup du discours politique, sociétal, etc., que recouvre en général l'art urbain. Il est très présent aussi chez Okuda, sous des airs comme ça complètement acidulés, des couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, etc. Il confond les notions de genre et tout, donc ça a l'air comme ça séduisant, amusant, mais au fond il y a un discours derrière politique et qui nous parle de ça. Et c'est souvent ça en fait qui va être visité par l'art urbain, par les artistes urbains.
Donc dans les artistes qui vont être représentés dans cette exposition, ils viennent d'où? De quel pays?
Alors ils viennent d'un peu partout. On en a donc jusque d'Afrique du Sud, d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre, de France bien évidemment, des hommes et des femmes.
Et puis il y a beaucoup de filles aussi.
Oui.
Voilà.
Oui, on a presque une petite dizaine de femmes. Alors certaines ne veulent pas révéler leur identité, elles ne veulent pas dire qu'elles sont des femmes, elles préfèrent rester dans une sorte d'anonymat, hein, l'anonymat qui va d'ailleurs très bien avec la question de l'art urbain, et puis parce qu'elles ne veulent pas être genrées. Voilà, donc libre à elles, bien. Mais enfin elles sont là.
Ok. Très bien. Si mes sources sont bonnes, vous travaillez depuis 25 ans au musée du Louvre.
Oui, tout à fait.
Donc la Joconde, vous la connaissez bien, évidemment, j'imagine.
Assez bien.
Et en 2017, je crois, c'est assez récent, il paraît que vous avez eu un choc esthétique qui vous a révélé l'ampleur de l'art urbain. Et suite à ce choc, vous décidez d'inviter dans une programmation éducative des street artistes à se confronter aux œuvres du Louvre lors de parcours filmés ou par des ateliers de pratiques artistiques dans des établissements scolaires, je crois, avec aussi l'Université de Paris-Nanterre.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette trajectoire personnelle, de ce moment où quelque chose a changé visiblement dans votre vie, puisque 25 ans de Louvre derrière vous, et puis d'un seul coup, ce choc
esthétique. Oui, un peu comme Saint-Paul sur le chemin de Damas, boum. Mais ce n'était pas un aveuglement, là, c'était au contraire une révélation. Alors, ce qui se passe, c'est que oui, j'ai été amené à visiter l'école 42, où il y a la collection justement de Nicolas Laugeroy-Lasserre, et c'est à la suite de ça qu'on s'est rencontrés, etc.
D'accord.
Et que l'histoire a commencé. Et j'ai eu l'occasion, donc j'étais avec, dans une visite guidée avec des amis, etc. J'entends parler je vois d'abord toutes ces œuvres, et je vois des noms, des auteurs dont j'avais jamais entendu parler, en fait. Ou alors de loin, je confondais un peu entre Banksy, Banksy, j'aurais pas su. Eplé, je connaissais pas vraiment encore tout ce monde-là. Et je me dis, mais il y a quelque chose qui m'échappe, là, je ne comprends pas. Je vois des œuvres que je trouve magnifiques, stupéfiantes, intéressantes. Alors, tout ne me plaisait pas, c'était pas la question, mais je me dis, mais c'est quand même tout un pan de l'histoire de l'art, là, qui m'échappe totalement, que je ne connais pas, qui est très immédiat, enfin, qui remonte à peu. Et comment se fait-il? Et puis, alors, je voyais des œuvres qui me faisaient tout de suite penser à des œuvres classiques, du Louvre, en l'occurrence. Certaines parce qu'elles y faisaient référence, d'autres pas du tout. Mais j'y voyais quand même un rapprochement plus que fortuit. Et je me suis intéressé à la question, donc je me suis penché sur ce mouvement, comme on peut parfois l'appeler, et j'ai essayé d'en appréhender un peu les contours, toute la diversité, etc. Et puis, comme ce sont des artistes très, pour la plupart, jeunes et très accessibles, j'en ai rencontré. Et je me suis forgé petit à petit ma culture par rapport à ça. Et je me suis dit que c'était une façon, comme j'ai des enfants qui sont aussi adolescents, je me suis dit c'est une façon absolument extraordinaire d'attraper les ados pour leur dire, mais vous aimez l'art urbain, mais regardez, ça ne vient pas de nulle part. Ça ne vient pas de nulle part, ces artistes, ils font référence, ou ils s'inscrivent en tout cas dans une dynamique et dans un héritage qui est celui d'un art beaucoup plus ancien. Et quand j'en parlais aux artistes, ils me disaient oui, tout à fait, mais le Louvre, j'ose pas trop y aller. Ou alors d'autres me disaient, mais je connais très bien parce qu'effectivement, je m'en suis nourri. Il y avait tous les cas de figure. Mais à chaque fois,
oui.
Tout à fait, mais à chaque fois, ils me disaient, mais de toute façon, c'est passionnant. Moi, ce rapport à l'art ancien, il me nourrit, il me construit. Ou bien quand je les emmenais au musée, ils me disaient, mais c'est fou comme tel auteur, il fonctionne comme moi, il travaille comme moi, etc. Notamment.
À quelques siècles d'écart.
Oui, les problématiques sont les mêmes parce qu'au fond, la problématique, c'est recouvrir un mur ou une toile blanche sur lequel il va falloir agencer des couleurs, raconter une histoire, créer peut-être un effet de trompe-l'œil ou du moins de profondeur, etc. Donc les problématiques, pour, quand on parle d'art figuratif, j'entends, elles sont les mêmes. Donc ils y ont vu eux-mêmes des échos et ce que je trouvais très rafraîchissant, c'est de les entendre parler, eux, de l'art ancien, parce qu'ils avaient mille choses à nous dire, parce qu'il n'y a pas de meilleur, je dirais, commentateur d'expert en art que celui qui s'y est frotté par la pratique et qui, du coup, voit les enjeux, les démarches, les approches, les problématiques, etc., que ça peut mettre en place. Donc ils avaient à chaque fois un discours subjectif, mais très intéressant et pointu, oui. Et qui nous permettait de faire ce pont. Voilà, donc c'est à ça que je suis arrivé jusqu'à finalement publier un ouvrage sous le Street Art Le Louvre, qui a cette volonté de montrer un peu tous ces ponts, sachant que dans ces ponts, il y en a qui sont complètement objectifs et réels, mm-hmm. et d'autres dans une deuxième partie que j'ai complètement créée subjectivement en faisant des mariages, non pas forcés, mais des mariages heureux entre des schémas iconographiques, comme ça, des histoires qui se racontent et qui montrent que la résonance, elle est là, consciente ou inconsciente.
Cette exposition, donc, elle va être, comme tout ce qui est ici, en accès libre et gratuit.
Tout à fait.
Pour tous, donc, du mercredi au dimanche, de midi à minuit.
Exactement.
Et c'est jusqu'à quand ?
Alors, c'est jusqu'au 19 avril.
Donc 2020.
Donc, c'est une longue exposition de 5 mois et demi.
Merci beaucoup pour toutes ces explications.
Je vous en prie.
Qui nous permettent vraiment de découvrir, non pas en surface, mais vraiment là aussi avec de plus en plus de perspectives, de mise en perspective et de mise en abîme, tout ce qui se passe derrière ce visuel que l'on peut voir dans la rue ou sur le net, sans savoir tout le travail intellectuel et concret d'artistes qu'il y a autour, qu'il y a derrière. Donc là, j'ai eu la chance de voir pas mal des œuvres qui vont être exposées grâce à vous, qui sont en train d'être mise en accrochée. Donc merci beaucoup pour tout ça et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès parce que je souhaite que beaucoup de gens puissent découvrir ça. Il faut savoir aussi que je ne suis pas seule privilégiée à avoir une visite guidée. Il y aura des visites guidées gratuites.
Tout à fait. Le lieu est gratuit de toute façon.
Voilà. Mais pour quelqu'un qui, comme moi, n'est pas toute cette connaissance, c'est vrai qu'entre passer juste devant une œuvre et puis avoir toutes les explications qui sont passionnantes, qui ne sont pas du tout... c'est pas laborieux, c'est pas fastidieux d'écouter ça, comme quelquefois dans les musées. Oui. Ça donne vraiment un relief à tout ça qui mérite le détour, vraiment.
Bon, merci beaucoup.
Merci à infiniment. Vous. Et vraiment, beau succès, bonne continuation. Et puis, peut-être à une prochaine.
J'espère bien.
Merci.
Au revoir.
Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So Sweet Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes, au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.